Bonjour à tous, mes frères et sœurs, et que notre cœur puisse être ouvert, l'est-il? Dans la parole de Dieu, il y a des centaines et des centaines de questions. Je l'ai compté dans le livre de la Genèse, il y a 143 questions dans le livre de la Genèse. 143 questions. La première question qui est posée à un homme, vous la connaissez? La première question que Dieu pose dans la Bible, il la pose à un homme qui a cédé à la tentation. Avec sa femme, ils se sont fait piéger par la parole, pas par la parole de Dieu. Ils se sont fait piéger par la parole de l'ennemi. Ils ont cédé à la parole. Ils ont cru à la parole de l'ennemi. Pourtant, Dieu avait parlé directement à Adam, et Dieu, dans cette démarche bénie de retrouver son enfant, va lui poser cette première question qu'on voit dans les Écritures: où es-tu? Il savait très bien, de la même manière que Dieu sait très bien que physiquement nous sommes ce matin 9 rue Saint-Guilhem à Toulouse. Vous comprenez bien que ce n'est pas une question géographique, c'est une question spirituelle. Où es-tu? Où en es-tu? Où en es-tu? Dieu parle dans sa parole. Vous le savez, il y a des versets que nous connaissons bien parce que nous les utilisons, nous les réutilisons souvent parce qu'ils sont importants, comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il est ajouté que l'homme est très sérieux lorsqu'il entend Dieu lui parler, non? Et qu'on n'y prend pas garde, que c'est triste, que c'est triste. Dieu parle dans sa parole, c'est quelque chose d'évident. Des fois, on dit à Seigneur, parle-moi, parle-moi. Mais franchement, si on était un petit peu plus simple, vraiment simple, n'oubliez pas que Dieu, dans les derniers jours, nous a parlé par le Fils, par sa parole. Lorsque Jésus parle de cette affaire qui concerne les hommes lorsqu'ils partent, riches ou pauvres, dans l'éternité, quelqu'un dit à la fin de la parabole, mais si quelqu'un des morts ressuscité, il croirait. Et Jésus dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Aujourd'hui, ce serait, ils ont la parole de Dieu, les prédicateurs à la limite, qu'ils les écoutent. Dieu parle par des questions, voyez, par des questions, par des avertissements. Si vous avez lu le psaume 119, Dieu parle par des ordonnances. Vous savez, comme le docteur qui nous donne une ordonnance, et qui a constaté que, eh bien, il y avait ceci ou il y avait cela, qu'il était peut-être souhaitable de prendre ceci. On le prend ou on ne le prend pas. Nous avons toujours le libre arbitre en ce qui concerne notre corps et notre âme et notre esprit. Il parle par des statuts, par des préceptes, par des commandements, par des lois, des lois, des lois. Aujourd'hui, on n'est pas trop parlé des lois de Dieu, et pourtant elles sont toutes bénies. Il parle par des promesses. Ah, de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Il parle par des invitations, il parle par des prophéties. Alors nous allons lire un texte qui contient une invitation et une prophétie. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, combien je voudrais que nous réalisions que cette parole que nous avons là en français dans nos Bibles traduites, elle est sortie de la bouche de Dieu. Luc, chapitre 13, verset 22. Évangile de Luc, chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Verset 34e, s'il vous plaît. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Nous avons là dans ce texte une prophétie, une grande prophétie, qui nous rappelle un autre verset, un verset de l'Écriture que là aussi nous citons souvent, qui est adressé à chacun. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il arrive souvent dans des repas de famille, lorsque des gens me rencontrent et qu'ils apprennent que je suis pasteur, souvent ils me posent la question, à quoi ça sert un pasteur? Eh bien je leur dis ça, ça sert à ce qu'un jour vous vous prépariez à rencontrer Dieu, si vous voulez bien sûr. Mes frères et sœurs, nous avons un rendez-vous avec Dieu ce matin. Un vrai rendez-vous. Je vous cite ce verset, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ça indique que cette préparation, c'est à nous de la mettre en place. Je vous pose la question, est-ce que mon frère, ma sœur, et vous-même qui n'êtes pas encore sauvés, car vous verrez à la conclusion que ce message également s'adresse à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Et de toute façon, Dieu, c'est un verset qui est adressé à tous les hommes. Vous voyez, quand il est dit Père, Père éternel, on voit bien que ça déjà, ça s'adresse à ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, Dieu n'est pas votre Père. Il est votre Dieu. Ça, c'est clair. Il est le Dieu de tous les hommes. Mais ce n'est pas parce qu'il est votre Dieu qu'il est votre Père. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ce qu'on va voir vraiment ce matin. Vous allez me dire, mais moi, Hugo, je suis chrétien. Si vous avez bien écouté le deuxième don spirituel, vous avez observé qu'on peut être chrétien et ne pas être prêt à rencontrer Dieu. Comment nous préparons-nous à rencontrer Dieu? Comment le faisons-nous? Le faisons-nous d'une façon sérieuse, ce que l'on va présenter ce matin, de manière sérieuse, la parole, on peut pas, normalement on ne peut pas faire autrement. Le faisons-nous d'une façon légère? Vous vous rappelez dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, cet homme qui se pensait que parce qu'il était roi, tout lui était permis. Il n'y a pas besoin d'être roi pour penser que notre vie nous appartient et qu'on en fait ce qu'on veut. Et cet homme a abusé, bien sûr, avec les choses de Dieu. Vous le lirez dans Daniel, au chapitre 5, si je ne me trompe. Et cet homme, à un moment donné, va s'entendre dire « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » La suite est triste, bien sûr. Parce qu'il a été léger. Et pourtant, Daniel, cet homme de Dieu, il ne le connaissait même pas. Il était à portée de main, je pense, puisqu'ils l'ont fait venir et de suite il était là. Il ne savait même pas qu'il y avait cet homme à portée de main dans le royaume, quoique nous avons quand même plus que Daniel. Mes frères et sœurs, et il a dit, mais tu n'as pas humilié ton cœur. Et Daniel va lui dire, mais Belshazzar, tu savais ces choses et tu n'as pas humilié ton cœur. Et maintenant, le Seigneur t'adresse cette parole. Et nous devons bien comprendre dans cette étape où nous sommes avec Dieu, que Dieu sait ce qu'il a à nous dire. Bien sûr que nous, par exemple, On a peut-être besoin d'une promesse. On pense, et ce n'est pas du tout mesquin, on pense que non, Seigneur, donne-moi une promesse, j'ai besoin d'une promesse. Mais Dieu sait que peut-être vous n'avez pas besoin d'une promesse, quoi qu'il vous la... Ça m'étonnerait qu'il ne vous l'accorde pas. Mais nous avons peut-être besoin de savoir comment nous nous préparons à rencontrer Dieu. Jésus parle dans l'évangile de Luc, justement. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Il parle de ceux qui ont écouté la voix de Dieu et qui n'ont rien préparé. Il en parle. Il a dit, voilà, ils ont écouté, ils ont entendu, ils voulaient entendre une parole, mais ils n'ont rien préparé. Mes frères et sœurs, c'est très sérieux. Vous savez, en tant que pasteur, même vous, en tant que chrétien, vous êtes amené à rencontrer des gens qui vous disent qu'ils sont chrétiens, ou qu'ils sont ceci ou cela, ou croyants. Et souvent, c'est un petit peu confus, on n'ose pas trop s'ingérer, on a raison. Mais quand même, c'est une affaire éternelle. Là, on s'occupe de l'éternité des gens, on ne s'occupe pas de choses temporelles, même s'il faut le faire. Donc, il faut que nous comprenions dans les Saintes Écritures, tout ce que Dieu a dit est intelligent. Je parlais des lois, que Dieu parle au travers des lois. J'aime ta loi, tes lois, ta loi fait mes délices, etc. Bon, quelqu'un qui connaît Dieu sait que tout ce qui est écrit est intelligent. Sincèrement, je sais qu'on ne peut pas tout comprendre. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard, etc. Ça, c'est pas grave. Mais tout ce qui est écrit est intelligent. Et ne contestez pas avec Dieu, vous allez perdre des mois, voire des années. Je le sais. Parce que je l'ai souvent vérifié. Dont Dieu parle dans cette parabole, dans ce texte qu'on vient de lire, il y a une invitation et il y a une prophétie. La Bible, j'en profite pour le dire pour ceux qui sont un petit peu perdus, la Bible est le seul livre prophétique. Écoutez-le bien, parce qu'il y a des gens il y a même des chrétiens qui se demandent si Nostradamus, le cher voyant français, n'aurait pas des choses à nous dire. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas la peine que vous vous intéressiez à Nostradamus. Intéressez-vous aux prophéties bibliques. Intéressez-vous aux prophéties. Je n'ai rien contre cet homme, bien sûr. Nous devrions réfléchir. Mes frères et sœurs, c'est écrit. Réfléchis. C'est pas que quand on est dans le malheur, même s'il est dit au jour du malheur, réfléchis. Parce qu'il y a des gens dans le malheur, à la place de réfléchir, ils rétrogradent. Mais au jour du malheur, on pourrait réfléchir, oui ou non. Plutôt que de bouder et de râler, dire tiens, mais peut-être que cette épreuve que je traverse, je pourrais quand même l'appréhender d'une manière intelligente. Avec le Dieu que je connais, je ne vois pas comment ça pourrait mal terminer. C'est écrit, prends garde à ton pied. Là aussi, ça n'a rien à voir avec la marche à l'entrée de l'assemblée. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à bien marcher avec Dieu. Quelle est notre marche? Voyez, où es-tu? Mais comment marches-tu avec Dieu? Vraiment, on va le voir. Mon introduction est un peu longue, pardon. Donc Jésus dit... C'est une prophétie terrible, cette prophétie. Lorsque le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte et que vous étant dehors. Donc, il s'adresse aux croyants, à des croyants, et il dit à ces croyants qu'un jour, cette porte qui est ouverte, gloire à Dieu, qui est ouverte depuis que Jésus-Christ est mort, crucifié sur la croix, la porte du ciel est ouverte. Alléluia. La porte est ouverte. Ce matin, 10 novembre 2019, la porte du ciel est ouverte. Mais Jésus indique que cette porte sera un jour fermée. La grâce s'achèvera. Vous allez me dire, ouais, mais ça fait 2000 ans que ça dure. Mais béni soit Dieu que ça fait autant de temps que ça dure, les temps, les durées, tout cela nous échappe, est inévitablement. Ne commencez pas à dire, Seigneur, il faudrait que tu reviennes maintenant. Mes enfants sont petits, ils sont sauvés. Viens maintenant, voyez, ça m'arrangerait. Écoutez, je comprends qu'on puisse déborder parfois dans nos propos, mais mes frères et sœurs, je crois que Dieu doit savoir quand est-ce qu'il doit revenir. Donc il y a une prophétie. Et la prophétie, elle est accompagnée de cette parole. Beaucoup, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible parce que nous pensons à tous les chrétiens, à tous les croyants. Moi, il m'arrive de vraiment faire la différence quand même entre une dénomination dans laquelle nous sommes et puis quand même tous les croyants qui existent, parce que quand même c'est délicat, mais en fait, c'est un cas. Vous voyez, quand, c'est bizarre quand on prie pour les chrétiens persécutés en Syrie. C'est drôle quand on inclut tous les chrétiens, on en a presque... On en extrait les dénominations. Ça fait partie des choses qui nous dépassent. Mais une chose est sûre, Jésus prophétise, c'est inchangeable, que beaucoup de chrétiens ne seront pas du bon côté de la porte lorsque elle se fermera. La grâce a commencé quand Jésus est venu, que son nom soit béni. La grâce a commencé, c'est pour ça que Jean-Baptiste a été catalogué comme étant le plus grand, parce qu'il a préparé le chemin du Seigneur. Il n'empêche que nous aussi, nous pourrions le préparer. Le chemin pour que Jésus marche au milieu de nous. Jésus a prophétisé qu'un grand nombre, beaucoup ça veut dire un grand nombre dans le dictionnaire, il l'a dit qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Il parle aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens, mais certaines ne le savent même pas. L'église de la Odyssée s'est entendue dire qu'elle ne sait pas qu'elle est tiède. Vous voyez, donc nous devons absolument être vigilants. Ça serait pour une chose, je vous le répète, temporelle, éphémère, terrestre, matérielle. C'est pas grave, vous vous trompez dans l'achat de la voiture. C'est pas grave, pas grave. Oh, j'aurais pas dû acheter cette voiture. Elle consomme 2 litres de plus, ils m'ont menti, ils m'ont trompé. Mais c'est normal. Mais c'est pas trop grave ça. C'est pas grave. Mais l'éternité, mes frères et sœurs, c'est solennel. Et même si vous êtes chrétien, vous devriez être encore plus saisi de cette crainte respectueuse, de ce respect des choses de Dieu. Parce que moi, je crois que bientôt, la porte va se fermer. Et qu'après la porte de la grâce fermée viendra la colère de Dieu. Vous le savez, vous avez lu la Bible. Donc, ça c'est clair, cette prophétie rappelle ou enseigne que la grâce s'achèvera et que la colère viendra. Les gens ne pourront pas entrer. Ou alors, lisez l'Apocalypse et vous verrez ce qu'il adviendra aux vierges folles après l'enlèvement de l'Église. Et ce que les croyants devront faire s'ils se repentent pour pouvoir obtenir le salut. Vous allez voir la différence entre la grâce et la dispensation de la grande tribulation. Beaucoup de gens ne sont pas prêts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Beaucoup de gens chercheront à entrer, je ne sais pas. Des fois, j'aimerais savoir avec quelle teneur Jésus a utilisé telle parole. Vous savez, des fois, on lit la Bible. Vous avez remarqué, chaque pasteur, quand il lit, ou chaque responsable, quand il lit un texte, il le lit avec une intonation différente. Vous avez remarqué? Parce qu'on se pose la question, mais comment le Seigneur Jésus a parlé? A-t-il parlé avec sévérité? A-t-il parlé avec beaucoup de douceur? Ça devait être excellent. Et bien sûr que nous aimerions savoir comment Jésus a prononcé cette parole. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Je vous dis ça parce que Dieu nous demande de travailler à notre salut. C'est écrit ? Oui. Comment nous demande-t-il de travailler à notre salut ? Avec crainte et tremblement. C'est pour cela que nous nous appliquons et nous demandons que dans nos lieux de culte, vous voyez, une dame qui me disait que la semaine dernière, elle avait été dans la salle à côté. Écoutez bien, si vous êtes à côté, elle n'a presque pas pu écouter. Parce que les gens parlaient, les gens n'écoutent pas pendant que le pasteur prêche. Parce qu'on n'est pas sérieux. Si vous venez à l'église et que pendant que le pasteur prêche, vous parlez, c'est que ça me veut dire long. Moi, si ma femme et une voisine parlent de couture, je peux vous dire que ça m'intéresse. Et si vous pensez à autre chose pendant que le pasteur vous parle de l'éternité de votre âme, ça vous montre... Mais écoutez, ne me reprochez pas d'être légaliste, s'il vous plaît. Ça vous montre dans quel état vous êtes, si déjà qu'une fois par semaine vous lisez la Bible, ou pas. Et si vous ne travaillez pas à votre salut, moi je ne veux pas que Dieu me reproche d'avoir été léger dans ma façon d'exprimer mon ministère. Nous devons travailler, ce qui est un sujet de joie, à notre salut, avec crainte et tremblement. Donc nous allons voir pendant un quart d'heure, 20 minutes, qui font partie de ces beaucoup. Qui sont-ils? Il faut que nous y réfléchissions. Peut-être que quelqu'un va s'y retrouver. Je vous dis, la deuxième prophétie était pour quelqu'un qui va se retrouver dans une de ces catégories. Alors, premièrement, il y a ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu. Il y en a beaucoup de gens qui sont entrés dans le royaume de Dieu et qui, pour plein de raisons différentes, en sont ressortis. Vous en connaissez. Vous en connaissez. Notre sœur Maya, qui a pris le baptême, après 20 ans de réflexion, c'est vrai que c'est écrit qu'avant de construire, il faut calculer la dépense. Elle a pris le temps, elle me disait, Monsieur Gault, tous ceux qui m'ont poussé à prendre le baptême ont rétrogradé. Et moi, j'ai pris le temps, c'est vrai, mais je peux vous dire que j'ai mûri ma décision. Je dis ça pour expliquer que c'est quelque chose de sérieux, il y a des gens qui rentrent, parce qu'on est libre. Ce qui caractérise vraiment le royaume de Dieu, c'est que nous sommes libres. Forcer les gens est tout à fait sectaire. Nous en parlerons à la fin, si j'ai le temps, par rapport à cet esprit de prosélytisme qui est souvent dans les églises, je ne pense pas à la nôtre, mais dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas bon du tout ça. On va le voir avec l'invitation qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a des gens qui rentrent, ils sortent, pour plein de raisons. On pourrait faire 3, 4, 5 prédications pour indiquer pourquoi il y a des gens qui sont entrés et qui, parce que c'est comme ça, ils ont voulu ressortir. Dieu ne force personne. La paresse de s'occuper de son salut. L'hypocrisie, ça peut être, je suis chrétien, mais en fin de compte, je ne le suis pas tant que ça. Ça suffit pour faire ressortir quelqu'un. Les épreuves qui ne sont pas acceptées. Parce que les épreuves, on en a tous. Mais une épreuve qui n'est pas acceptée peut faire que, je ressors. Ça ne me plaît pas, je n'avais pas du tout entrevu la vie avec Dieu comme ça. On m'avait parlé de la bénédiction, on m'avait dit quand tu seras chrétien, tu n'auras pas de problème. Bon, il y a des évangélistes un peu qui débordent parfois. Ce n'est pas écrit quand tu seras à Jésus, tu n'auras pas de problème. Par contre, il est écrit quand tu seras à Jésus, tu seras sauvé. Ce n'est pas écrit ça. Mais des fois, on déborde parce qu'on veut attirer par des moyens charnels les gens à Dieu. On les a un peu trompés. Donc, il y a des personnes qui n'acceptent pas les épreuves. Il y a plein de comportements qui font que les gens sont libres. Les gens sont libres. Tout le monde est libre. Même les anges, quand ils ont été créés, ont tous eu la liberté de choisir. Et il y a un tiers des anges, Lucifer à la tête, qui était, apparemment, c'était un des plus hauts placés, eh bien, il a choisi délibérément de sortir du royaume de Dieu. Et il est devenu le Satan. Et les anges déchus sont devenus des démons. On est libres, tous. Tous, on est libres. Cet matin, vous pouvez être là. Ce soir, vous pouvez être perdu. On est libres. C'est quelque chose de terrible, ça. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Heureusement qu'on est libre. Deuxièmement, il y a les chrétiens de nom. Écoutez bien cette affaire, parce que c'est certainement là que le problème est le plus grand, en vérité, dans les églises, qui attriste le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Mais mes frères et sœurs, si vous avez lu la parole de Dieu, vraiment, si vous lisez la parole de Dieu avec votre cœur, même si vous ne comprenez pas tout de suite, vous comprenez bien qu'il y a des choses que Dieu demande, en plus de la croyance. Il y a des gens qui croient et qui se contentent de croire en Dieu. Mais pour Dieu, ça ne suffit pas. Vous entendez, mes frères et sœurs? Est-ce que les démons y croient, au fait? Je pense que même ils ont une foi supérieure à la nôtre. Dieu demande que nous ajoutions à notre foi la piété. La piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? Qu'est-ce que c'est que cette piété? On n'en parle plus dans les églises, de toute façon. D'une manière générale, je le sais très bien, on ne parle plus de piété. D'ailleurs, moi, j'étais dans des églises, et quand je parlais du mot piété, il y avait des gens, vous savez, tout naturellement, c'est quoi, mais fort, c'est quoi, monsieur Gault, la piété? Bon, quand vous avez des gens de 10 ans de conversion qui vous posent la question, vous en déduisez qu'ils ont souffert de manque d'enseignement. Dieu demande la piété. La piété, c'est ce profond respect des choses de Dieu. C'est cette considération pour la sainte parole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La parole, elle est sortie du cœur de Dieu, de la bouche de Dieu. Ce n'est pas un livre comme un autre. La parole, elle sort du trône de Dieu. Et on ne peut pas ne pas avoir de respect pour la parole. Quand je vois comment certains chrétiens, je parierais, c'est une façon de parler, qu'ils vont être fils prodigues. Parce qu'il n'y a pas de respect. On devrait respecter la parole. Vous avez vu Adam et Ève, ils ont préféré la parole de Satan à la parole de Dieu. Avec une question justement, Dieu a-t-il réellement dit? Mais bien sûr, si c'est écrit, des gens des fois me disent, oh, monsieur Gault, moi je crois en Dieu, mais moi l'histoire de l'enfer, j'accepte pas que Dieu ait créé un enfer, c'est pas possible. Ah bon? Et vous pensez que vous êtes à même d'imaginer que Dieu s'est trompé? Sans commentaire. La piété, c'est cet honneur de se retrouver. Moi, je crois que c'est une grâce d'avoir été arrêté sur le chemin. Stop ! Et que Dieu se soit présenté pour nous sauver. Vous considérez ça comme une grâce, hein ? Parce que mes frères et sœurs, même si on a cherché, parce que les uns ont été dans les travers ou dans les problèmes, je pense plutôt que tous, Dieu nous a cherchés. Ce n'est pas un honneur. Ce respect, là on est devant la parole, on sait que ce que j'exprime, même si c'est un homme qui l'explique, la pensée maîtresse, elle vient de Dieu. Le contraire de cette piété, la palisse l'aurait dit, c'est l'impiété. Vous allez lire avec moi un verset que j'aime beaucoup, auquel je pense souvent, parce qu'on voit bien qu'on dit des fois que Dieu sépare l'humanité en deux personnes, en deux groupes. Mais en vérité, c'est pareil, il y en a trois. Regardez avec moi, dans Pierre. Souvent, on dit, oui, sur la terre, il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Hein, on le dit souvent, ça. C'est vrai. Mais regardez, il y a quand même trois catégories. Regardez bien. 1 Pierre, chapitre 4, on va lire le verset 17. Et c'est surtout le verset 18 qui nous intéresse. Là aussi, c'est une question. Dans la première épître de Pierre, je crois qu'il n'y en a que trois questions. Ça m'intéresse, moi, les questions, parce que je sais que ça me fait réfléchir. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Alors le mot « jugement » dans le grec, ça ne veut pas dire la condamnation. Le jugement, ça veut dire aussi rendre des comptes. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste, donc ça c'est le chrétien qui obéit, si le juste se sauve avec peine, avec travail, la peine c'est le travail, on le dit, il se donne de la peine, hein. Si le juste se sauve en travaillant son salut, que deviendront l'impie et le pécheur? On voit bien qu'il y a trois catégories, le juste, les impies et les pécheurs. Les pécheurs, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, et en France il y a des millions de gens qui ne connaissent rien de Jésus-Christ. Et il y a les impies. Les impies, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de piété. Que deviendront l'impie et le pécheur? Les pécheurs, ce sont ceux qui ne connaissent pas du tout le Seigneur Jésus, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien, ils sont complètement dans les ténèbres. Mais les impies, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de piété. Et ce texte est catégorique, les chrétiens qui n'ont pas de piété, ils sont du mauvais côté de la porte. Ils sont du mauvais côté. Un impie, bon bien sûr, vous allez me dire, c'est facile. C'est quelqu'un qui a l'apparence de la piété. C'est ce que disait le deuxième don spirituel. Quelqu'un qui vit à l'église, il écoute la parole de Dieu, il n'est pas au bout de la rue que déjà il a tout entendu, et le soir, il est là et sait qu'il y a d'abondantes joies devant le film sur telle chaîne. Il cherche la joie dans le monde. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans ces considérations, mais moi, je crois vraiment, mes frères et sœurs, que nous devons faire attention à ces choses qui peuvent endurcir notre cœur. Je crois en toi, Seigneur, mais je crois en toi. Mais je ne suis pas intéressé en vérité. Il faut avoir ce courage de le dire. Je crois en toi, je viens à l'église, je me plais à écouter un sermon. J'aime retrouver des frères qui ont des valeurs, parce que c'est quand même une grâce de retrouver des frères qui, oui ou non, des frères qui sont dans la paix. C'est beau quand même, hein, même si on n'est pas toujours d'accord. Il n'empêche que c'est une grâce de se retrouver avec des chrétiens. Mais la volonté de Dieu, vous savez, moi, la volonté de Dieu, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est de pas y être que c'est compliqué. Et si vous vous permettez de jongler avec cette affaire, moi je vous dis, vous êtes dans de sales draps. La volonté de Dieu, elle est belle, la volonté de Dieu. Vous croyez que Jésus est mort pour nous proposer des plans de bas étage ? Moi je crois que quand Jésus est mort, il a provoqué des œuvres à l'avance. Pour tous les chrétiens en plus, c'est glorieux. Je crois en toi, mais oui, tes paroles, j'y comprends rien de toute façon. Ah bon ? Et vous ne pensez pas que le Saint-Esprit peut nous éclairer ? Pierre et Jean, des hommes qui ont changé le monde, étaient des hommes du peuple sans instruction. Le problème dans le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'instruction, ça a à voir tout simplement avec l'ouverture du cœur. C'est tout. C'est tout. Dieu aurait été profondément injuste si la compréhension dépendait de l'instruction. La compréhension de la parole dépend de l'ouverture du cœur, mes frères et sœurs. Jésus l'a bien dit dans le sermon sur la montagne, mais ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Suis la seule qui fait la volonté. Dieu n'est pas intéressé pas tellement par nos actes, par nos paroles. Dieu veut des actes. Vous connaissez ces versets, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Qu'est-ce qu'ils deviendront ces gens-là ? Ils sont chrétiens à l'église, ils croient en Dieu, même en dehors, mais ils n'ont pas de piété. Et moi, c'est mon devoir. C'est mon devoir de vous dire où en êtes-vous de votre piété ? Pas de votre croyance. Je sais très bien que si vous êtes là, enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait un problème sérieux, mais si nous sommes là, c'est parce que nous croyons en Dieu. Mais la piété, mes frères et sœurs, et la piété, c'est une vertu que nous pouvons développer. Il est dit dans Pierre, joignez à votre foi la vertu. Ce n'est pas dit dans cet ordre, mais c'est pareil. Il y a des qualités que nous avons, que Dieu nous a accordées, comme il nous a donné des bras, des yeux, des oreilles. Il nous a donné des vertus, c'est à nous de les développer. Dieu dit à Timothée, par Paul, exerce-toi à la piété. Vous voyez, la piété, c'est Dieu demande de la piété. N'espérez pas autre chose. Dieu te demande ce matin. Est-ce que tu as juste de la croyance qui fait que tu es du mauvais côté de la porte ? Ou est-ce que tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement, ce qui est une bénédiction ? S'il y a parmi nous des chrétiens qui travaillent vraiment à leur salut, qu'ils viennent m'expliquer que c'est une corvée. Qu'ils viennent m'expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille à son salut pour qui c'est une corvée ? Je vous laisse 2-3 heures pour vous expliquer parce qu'il vous faudra du temps. Hein. Il vous faudra du temps. Troisièmement, ce sont les croyants qui pensent que parce que Dieu est amour, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Dieu est amour. Et dans les églises, je peux vous dire que ça circule partout. Dieu est amour, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et bien sûr, c'est bizarre comment on va tomber sur des versets qui confortent cette pensée. Tout est permis. C'est écrit, tout est permis ? Si vous lisez la suite, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même pensée. Tout est permis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais tu peux faire ce que tu veux maintenant que tu es chrétien. Et bien sûr, on peut. Alors, c'est triste d'en arriver là. Mais utiliser la parole de Dieu pour faire ce qu'on veut, moi, je trouve que ce n'est pas honnête devant Dieu. Vous pouvez faire comme le monde. Dieu est bon. Et il m'est arrivé d'aller dans des églises où tous les chants, où tout, je ne dis pas ça pour mépriser qui que ce soit. On me l'a trop reproché, donc je ne vais pas retomber dans ce truc. Mais mes frères et sœurs, il faut quand même que dans une église, nous entendions, oui, que Dieu est amour, mais que Dieu est exigeant aussi. Dieu est exigeant. Vous en voudriez, vous, au fait, d'un Dieu qui ne soit pas exigeant? Il y a des gens qui aiment le monde. Ils aiment vraiment le monde. Je parle pas. Il y a certains, je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ils aiment le monde. Ils aiment les choses du monde. Plus que Dieu. Et ceux qui aiment le monde, vraiment ceux qui aiment le monde, plus que Dieu. Il y a des gens, ils ont vite choisi entre le culte le dimanche matin, si on leur propose, mais je t'invite ce matin à aller à tel endroit, mais bon, il y a une heure de route, on ne pourra pas aller au culte. C'est quoi? Ben, tu sais, c'est le plus grand restaurant gastronomique de Toulouse, tout est offert. Il y a des gens, ils ont vite choisi. Oh, pour une fois. Ça vaudrait la peine, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de vous dire, que vous méditiez Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous le dis très sincèrement, vous notez ce verset, Hébreux 10, 26 à 31, vous vous mettez à genoux dans votre chambre et vous priez. Si vous travaillez à votre salut, n'écoutez pas, vous allez, le Saint-Esprit va vous parler. La Bible, ce texte nous parle du péché volontaire. Il y a tous les péchés involontaires, d'ailleurs nous en souffrons assez. Je ne parle pas des péchés involontaires. D'ailleurs, si vous avez lu dans votre livre préféré, le Lévitique, tout l'enseignement sur le péché volontaire et le péché involontaire, vous verrez qu'il y a de quoi réfléchir. Et beaucoup de chrétiens confondent l'amour de Dieu avec la liberté de péché. Ces gens-là, ils seront du mauvais côté, moi je vous le dis. Ils utilisent la grâce. Et la grâce est enseignée aujourd'hui, je le dis vraiment avec tristesse, on utilise aujourd'hui la grâce comme couverture qui permet de pécher. La couverture, elle existe. Ce sang précieux de Jésus qui nous couvre, elle existe. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais la grâce, ce n'est pas que la couverture qui nous lave. La grâce, on va le lire pour les chrétiens qui ne travaillent pas leur salut. C'est dans Tite. Juste avant les grands Hébreux, Philémon, il y a cette petite épître que Dieu adresse à un pasteur qui reçoit, regardez ce qu'il reçoit comme exhortation, ce jeune pasteur. Tite, chapitre 2. C'est important, frères et sœurs. Utiliser la grâce juste comme une couverture, ça ne va pas aller. Tite, chapitre 2, on va lire le verset 12 et 13, et puis après on va voir le verset 10 pour voir, non, verset 11, 12 et 13. Regardez bien, vous y êtes? Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà, ça c'est le calvaire, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous lave et qui nous sauve. Mais regardez bien, elle n'a pas qu'un aspect de couverture, la grâce. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Amen. Plusieurs auraient pu dire amen, parce que c'est quand même important. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent, donc aujourd'hui, 21e siècle, dans la sagesse, selon la sagesse, la justice et la piété. Voyez, mes frères et sœurs, en attendant le retour du Seigneur. Et regardez d'ailleurs, et bon, ça c'est mon côté personnel, bien sûr, en tant que pasteur, mais au verset 10, regardez ce que Dieu demande à ce pasteur, de ne pas dérober, bien sûr, de faire toujours, voilà, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Voilà ce que Dieu demande à ce pasteur. Partout où tu iras, fais honorer la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez, le contexte, c'est ça. Il faut que nous honorions la doctrine. La parole, c'est archi sérieux. Si on va aller au ciel, c'est grâce à la parole. La quatrième catégorie. Alors écoutez bien, si vous n'êtes pas baptisé, si vous n'êtes pas encore converti ou repenti, c'est pour vous. Écoutez bien. Les trois premiers cas, ce sont des chrétiens qui ont une vie spirituelle légère. Cette catégorie, c'est ceux qui attendent. C'est ceux qui attendent. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai le temps, j'ai 20 ans, je me convertirai quand je serai à la retraite. Où je me convertirai quand je serai vieux. À 88 ans, je me convertirai. Une semaine ou un mois avant de mourir. Vous l'avez jamais entendu, ça ? Moi, j'attends, monsieur Gaud, j'attends, j'ai trop de problèmes, il faut que j'aie payé la maison. Quand j'aurai payé la maison, eh bien, je m'occuperai de mon âme. J'attends d'avoir fini mes études. Quand j'aurai fini mes études, monsieur Gaud, je m'occuperai de mon salut. Ou j'attends de... J'attends, monsieur Gaud. Moi, je veux faire ma vie. Ouais. Ma vie. Ma vie. On l'entend, ça ? Moi, je veux faire ma vie. Vous l'avez jamais entendu, ça ? Moi, je veux ma vie. Ta vie. Je ne sais pas si cette prédication est pour quelqu'un ici ou que pour ceux qui écouteront sur Internet. Mais si vous n'êtes pas encore baptisé, je voudrais vous dire que votre vie, elle sera quand même plus bénie si sur la terre déjà vous vous occupez de votre âme. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Des gens qui vous disent « Ah, moi j'attends la retraite ». Non mais attends, j'attends la retraite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'attends la retraite. C'est un raisonnement. C'est un raisonnement qui tient debout. Ça tient debout ou non ? J'attends d'avoir payé ma maison. Voilà, il me reste 7 ans à payer. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens qui vous disent ça ? Mais on peut dire à ces gens, mais ta vie, ta maison, c'est bien ta maison. Mais ça ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Moi, j'ai une cousine, qui est morte le jour où elle a pendu la crémaillère. Le jour où ils ont construit la maison, ils ont invité tous les amis, ils ont certainement exagéré, ils étaient épuisés, fatigués et tout. Et quand ils ont arrosé la crémaillère, paf, elle est morte. Crise cardiaque, 35 ans. Notre vie ne nous appartient pas. C'est vrai que c'est un raisonnement comme un autre et que tout le monde peut dire « Mais moi j'attends ci, moi j'attends là, je me convertirai à, je me convertirai quand ?» Oui, mais mes frères et sœurs, c'est un raisonnement qui oublie une grande, grande vérité. C'est que notre vie ne nous appartient pas. Je ne sais pas si je vais arriver à la retraite, je ne sais pas si je terminerai mes études. C'est un raisonnement qui oublie que chaque fois que Dieu te parle, que Dieu te dit une parole et que tu t'endurcis et que tu n'écoutes pas, tu t'endurcis. Et nous avons vu des gens qui sont arrivés à 80 ans, justement, ou à 88 ans, deux mois avant, et qui, quand on leur a parlé du pardon de Dieu, s'étaient tellement endurcis qu'ils n'y croyaient plus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas convertis, à tous ceux qui ne sont pas baptisés, vous êtes libres. Vous êtes libres. Nous, on n'est pas là pour vous forcer. D'ailleurs, je termine avec l'invitation, car je vous ai dit que dans ce texte, il y avait une invitation, et on va la lire. Regardez cette invitation de Jésus. Il y a la prophétie, bon, on l'a partagée. Mais regardez l'invitation. C'est très, 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 très étonnant, cette invitation. Le mot que Jésus utilise, regardez dans un contexte solennel de l'éternité. Regardez ce que Jésus dit, Luc 13, 24, « Je vais vous forcer, les temps sont durs, je vais vous forcer d'entrer, parce que je suis le Seigneur du ciel et de la terre. » C'est comme ça qu'il parle ? Non. Mais regardez cette parole, je l'ai fait, je n'ai pas fait de l'humour du tout. Je vous explique que même si c'est solennel, le Seigneur ne vous forcera pas. C'est à nous de nous forcer. Et forcez-vous d'entrer par la porte étroite, la croix. Et force-toi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est très grave de faire du prosélytisme. Nos églises en France sont taxées de prosélytisme. Alors c'est vrai que nous devons être des bons témoins. Mais nous ne sommes pas des convertisseurs. Nous ne devons pas forcer les gens. Nous devons rendre un bon témoignage. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs ? Quel est le témoignage que nous rendons au niveau de l'Assemblée locale ? Vous vous rendez compte ? Cette semaine, je crois que j'ai allumé 3 fois la télé pour voir les infos. 3 fois, je suis tombé sur des infos par rapport à l'Église en France. sincèrement, j'ai dit, je me mettais à la place d'un pécheur qui recevait ce merveilleux témoignage de l'Église. Pire que le monde. Pire, et je pèse mes mots. Nous ne sommes pas des prosélytistes, nous sommes des témoins. Et nous devons croire que si nous rendons un bon témoignage, les gens seront touchés. Vous serez mes témoins. Quel est le témoignage que je rends auprès de mes voisins, auprès des gens avec qui je travaille? Mes frères et sœurs, cette invitation, elle est libératrice, cette invitation. Parce que c'est à chacun, vous, vos enfants, c'est pour ça. C'est vrai que j'ai été papa d'enfants qui étaient adolescents, et je leur dis, mais convertissez-vous. On a tout le temps peur que Jésus revienne nous chercher, etc. Mais je crois que nos enfants, le Saint-Esprit peut les convaincre de péché. Parce que l'atmosphère de piété dans l'Église, cette vraie piété que Dieu demande, c'est notre partage. Et s'il y a un pécheur au milieu de nous ce matin, soyez le bienvenu et pardonnez-nous d'avoir eu des témoignages qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Ouais, il faut dire pardon, c'est clair, c'est évident. C'est évident que les églises doivent demander pardon à la nation, ça c'est sûr et certain, pour leurs témoignages lamentables. C'est sûr, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur te dit au travers de ce texte, efforce-toi. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui es d'accord, pleinement convaincu avec ce que nous venons de partager, eh bien, rendons un bon témoignage. Rendez un bon témoignage. Moi, je me souviens la première fois, vous savez, moi, j'étais vraiment dans les ténèbres, ben, comme vous. Et j'ai vu un vrai chrétien. J'avais vu plein de croyants qui avaient fait des expériences avec Dieu. Dieu m'a guéri. Mais je savais que c'était des chrétiens de nom. Et un jour, Dieu a mis sur mon chemin un vrai chrétien. Et je le savais. Ça m'a profondément dérangé d'ailleurs. Parce que je savais que ça existait. C'est ça que Dieu a besoin. Et ce sont les gens qui s'efforceront parce qu'ils seront convaincus de péché. Un pécheur viendra, il verra une église pieuse, vraiment pieuse, heureuse d'être pieuse, et les pécheurs seront convaincus de péché. Après, ils se convertiront ou pas, mais ce n'est pas notre devoir, ça. C'est pas... Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Si un des fils de Noé avait dit à son père, écoute papa, moi, les bateaux, c'est pas mon truc, je sors. Est-ce qu'il aurait pu sortir? Mais ouais. Nous sommes libres. Libres de prendre ce que nous avons partagé ce matin au sérieux, ou pas. Libre de dire de quel côté de la porte je suis. Mais en fait, quand même, est-ce que c'est de l'ingérence que de vous poser cette question pour terminer? De quel côté de la porte es-tu? La porte, vous savez qui c'est dans la Bible. Cette porte, elle est ouverte. Mais je ne sais pas si à la fin de l'année, elle sera fermée. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine qu'on demande au Seigneur de l'aide? Bien sûr qu'il nous aidera dans d'autres domaines qui sont importants. Je parlais de la voiture qu'il faudra revendre parce qu'elle consomme trop. Mais ce n'est pas très grave, frères et sœurs. Ce n'est pas trop grave la voiture qui est rayée. Ce qui est important, c'est que votre âme soit en bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous fermions les yeux et que nous laissions le Saint-Esprit nous aider à voir de quel côté nous sommes? Mes frères et sœurs, travaillons à notre salut consciencieusement. Consciencieusement. Et vous qui n'êtes pas sauvés, je vous le dis comme c'est écrit, efforce-toi d'entrer et pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas donné ce bon témoignage. Pardonne-nous. Je m'adresse aux adolescents, aux enfants. Pardonnez-nous d'avoir été des parents maladroits, sérieusement. Je suis très sincère. Mais ça n'annule pas le fait qu'il te faut te préparer à rencontrer Dieu.